Vous n'avez pas envie de fuir, de vous sauver, non? Pas encore? Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de nous poser des questions à chaud, comme ça, tout de suite. Mais voilà, c'est si vous en avez envie, si vous des choses, si on peut vous éclairer sur certains points, encore plus, davantage. J'ai réalisé tout à l'heure, en regardant à travers le truc, je parle quand même beaucoup dans ce film, et là, on va continuer un peu. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, Olivier peut, il parle, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire tout à l'heure. Et il peut vous répondre pour tous les aspects, cinématographiques, vraiment, d'images, etc. Et moi, je peux vous parler sur le reste, à ces différences près que je ne suis pas Noam Chomsky, comme vous pouvez le constater, et que je peux pas répondre évidemment à sa place sur ce qu'il aurait pu dire de plus ou autrement. Allez-y, vous avez, il y a un micro peut-être. Là, il y a un monsieur qui veut poser une question. Il est là. Ah, je vais vous répondre à ça.
Non, juste pour lancer la parole. Ouais. Si Noam Chomsky a vu le film ou pas
Non, je crois pas qu'il l'ait vu. Hein, je crois pas. Je sais qu'il a, il a des bons échos. Il nous a dit qu'il avait des bons échos de ce film et qu'il était très heureux de tout ce qui se passe autour de ce film. Parce que le film sort mercredi dans 120 salles en France. Là, c'est une avant-première à laquelle vous assistez. Et une salle à Alger. On est très content de ça. Et il est présenté dans une série de festivals à travers le monde. Donc évidemment, Chomsky est très content de ça. Il cherche à ce que sa façon de voir les choses et sa parole se diffuse, évidemment, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il l'ait vu, non. Par contre, l'autre film qui a été fait précédemment, Manufacture Concerne, dont je parlais peut-être tout à l'heure, je sais plus si j'en ai parlé ce matin ou tout à l'heure. Ça, il a été plus perplexe sur ce film qui est pourtant excellent, considérant que à partir de l'existence de ce film, les gens se sont adressés à lui d'une façon un peu différente, le voyant plus comme un gourou, comme un personnage politique, l'incitant à prendre des positions plus personnalisées, plus personnifiées. Et qui se demandait si ça. Mais là, je pense qu'on a évité ce. Chomsky, c'est un monsieur qui bosse beaucoup. Il a 80 berges maintenant. Et il passe son temps à communiquer beaucoup, notamment à répondre à tous les mails qui lui parviennent du monde entier. Il passe 4 à 5 heures par jour à répondre aux mails qui lui parviennent. Des tas de gens lui écrivent à travers le monde, il répond tout de suite, il répond à tout le monde, il lit les mails une seule fois, c'est sa grande fierté, et il répond immédiatement. Vous pouvez lui écrire, peut-être, je sais pas. Et c'est une de ses activités, évidemment, lire beaucoup, doc, et communiquer avec il a des correspondants à travers le monde, et puis il s'occupe quand même encore un petit peu de linguistique, je pense, mais évidemment, son activité essentielle, c'est de faire son travail d'intellectuel, tout simplement. Mais enfin, il travaille une centaine d'heures par semaine, c'est assez hallucinant. Et il a des rendez-vous planifiés sur 1 an, sur 2 ans, comme ça, avec des gens qui viennent d'un peu partout pour le voir. Et c'est son assistante qui trie, je sais pas trop comment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même branché sur le monde à travers ses correspondants. D'autres questions? Perplexe. Hein.
Bonsoir.
Bonsoir.
On voit bien que Chomsky a beaucoup de correspondants à travers le monde, vous le dites vous-même. Et quel est l'impact de sa pensée sur les Américains des États-Unis? Est-ce qu'il y a des syndicats, des groupements qui s'en revendiquent, ou comment se diffusent ses idées, son analyse?
Ça se diffuse quand même très fort, hein, depuis des années à travers tout un tas de choses. Il vient de sortir son 100e livre. Il a écrit une centaine de bouquins. Ou participé au total. Enfin, sa signature représente sur une centaine de livres. Donc ça fait quand même une diffusion importante. Il est très souvent présent. Il écrit pour un site qui s'appelle Znet. Fréquemment. Il est très fréquemment interviewé sur une radio qui s'appelle Democracy Now. la radio d'Amy Goodman, où il intervient très souvent en direct. C'est une radio qui est très écoutée à travers les États-Unis. Donc, il continue de fonctionner. Oui, non, sa pensée prise en compte aux États-Unis, elle existe bien sur la scène, pas seulement sur la scène intellectuelle américaine, mais sur la scène, disons, politique américaine et sur la scène médiatique également. Chomsky existe aux États-Unis, où il est contesté, bien évidemment. Hein. Nous, c'était notre intention en faisant ce film, c'était de... On a pensé que Chomsky était quelqu'un de discutable, c'est-à-dire qu'il méritait d'être discuté au sens où Bourdieu disait, mériter d'être discuté. On a pensé, nous, que Chomsky pouvait être hissé à cet honneur d'être discuté. Mais il a une influence, oui, enfin, il a un rôle aux États-Unis. D'ailleurs, au début du film, il y a cette citation du New York Times qui est un extrait, d'ailleurs, du film de Vintonik et Akbar, où on voit que le New York Times le prend en considération. C'est quand même l'intellectuel le plus populaire au monde. Je sais pas qui a des... Je crois que c'est le Times de Londres qui avait estimé ça. Et c'est surtout, tout simplement, l'intellectuel le plus cité. Le plus cité, le plus repris dans le monde. Alors qu'en fait, il cherche pas la reprise. Il cherche pas la phrase qui va être reprise. Vous savez, la phrase brillante qui va faire que vous êtes repris. Et non, il a une influence certaine aux États-Unis, peut-être plus importante en Amérique latine. Il est très lu, évidemment, et très suivi en Amérique latine à cause de la critique qu'il fait de la politique extérieure des États-Unis. C'est pas difficile à comprendre, mais il est aussi très lu et très pris. Enfin, il sert de référence et d'outil aussi dans les pays du Moyen-Orient. Il fournit quand même des armes. Il fournit quand même des armes, c'est-à-dire des arguments, c'est-à-dire des savoirs, en vue non seulement de la réflexion, mais de l'action. Il nourrit des actions, de l'action, sans agir directement lui-même. Il laisse à chacun le choix d'agir d'après son travail d'intellectuel, qui est après tout un travail d'intellectuel, qui devrait être un travail d'intellectuel courant.
Oui, vous parlez du fait justement qu'il ne cherche pas la reconnaissance, enfin cette sorte de personnification qu'on fait très rapidement autour de personnes qui parlent, qui cherchent, qui exposent, qui discutent. Et il y a un petit peu ce piège-là que je retrouve souvent dans des personnages qui peuvent dire des choses, exposer des choses qui partent d'un bon fond au départ et qui se font prendre dans ces personnages-là, cette reconnaissance-là, qui à un moment monte à la tête simplement et qui fait perdre la sincérité et la base même de, enfin la force même, je trouve, de du message quoi, et des recherches et des de... Et c'est ça qui m'a régulièrement frappée dans le film et je me pose toujours la question. Et bon, cet homme, il est quand même âgé aujourd'hui. Alors peut-être que beaucoup de personnes seraient capables de reprendre son discours ou je ne sais pas, mais comment on peut garder cette sincérité-là et continuer qu'elle fleurisse, mais sans chercher à prendre le pouvoir, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'effraie un peu, cette capacité des hommes à prendre rapidement le pouvoir.
Ouais, je crois que Chomsky veut pas le pouvoir. Il est assez clair. Toute sa vie aura été de mettre le pouvoir à nu, d'interroger le pouvoir, les pouvoirs, notamment le pouvoir de son pays, mais les autres pouvoirs, les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique. Au-delà même du seul pouvoir médiatique que nous critiquons en France depuis un certain nombre d'années, lui, c'est l'ensemble de l'appareil de la fabrique du consentement, ce qu'il appelle la fabrique de consentement, et toute la fabrique de l'idéologie qu'il a mis à nu avec Edermann. Mais c'est vrai que le pouvoir ne le tente pas, c'est pas une chose qui le tente. Je crois qu'il n'y a pas un moment où il a été tenté par ça. Tout le monde n'est pas enclin à prendre le pouvoir. Je crois pas que ce soit quelque chose que tout le monde, dont tout le monde est en vie. Mais effectivement, beaucoup de ceux qui s'expriment, parlent, apportent le résultat d'expériences ou de savoirs divers qu'ils ont envie de partager, se font souvent prendre, vous avez raison, par l'espèce de d'ivresse de la médiatisation et finissent, comme vous savez, tristement devant des écrans de télévision, dans des télévisions maquillées, allant d'une caméra à l'autre, d'un micro à l'autre, d'une interview à l'autre, comme des animaux tristes dont il est superflu de dresser la liste, vous les connaissez tous.
J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous vous sentez libre?
Non, je pourrais ne pas être libre, parce que ce seraient les barrières que je pourrais avoir à l'intérieur de la tête qui feraient que je ne serais pas entièrement libre. Non, j'appartiens à la même espèce que les gars dont ce Olivier Azam s'est moqué. J'aurais pu être dans la liste, hein. Moi aussi, si on m'avait interrogé, j'aurais sans doute... Enfin... oui, sans faire attention, si j'avais pas vu la tête du gars, j'aurais dit que j'étais libre. Non, on l'est pas, bien sûr. Un journaliste n'est pas plus libre que vous, l'est autant. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent, on n'est pas des êtres humains différents. On est en proie à des tas d'influences, de manipulations, d'émotions, tout ce que vous voulez. Il y a aucune la duperie, c'est de croire qu'on est libre. Enfin, évidemment, c'est tout simple, c'est tout bête. La manipulation, elle est de faire croire qu'on l'est. La manipulation, elle est de faire croire qu'on l'est. Surtout quand on ajoute à ça libre et objectif. S'il y a quelque chose qui va pas, il y a un mot de trop dans. Il faut choisir. Informer, d'ailleurs, c'est choisir. Donc, ou bien on dit qu'on est libre, mais là on peut pas dire qu'on est objectif, et ou bien là on dit qu'on est objectif, mais on peut pas dire qu'on est libre. L'objectivité étant quelque chose d'inhumain et d'inaccessible. Non, je crois que je me dis que voilà, que la liberté ne s'use que si l'on s'en sert pas. Voilà, pour prendre une vieille formule de mon époque. Mais j'ai pas l'illusion d'être entièrement libre, même si France Inter me laisse faire ce que je veux depuis 20 ans. Il faut quand même bien dire la vérité, hein. Et que je choisis avec mon équipe les sujets sur lesquels on travaille. Mais dans le choix des sujets, il y a sans doute des limites que moi aussi je m'impose, qui sont dues à l'expérience, qui sont dues au fait que ça, ce sujet-là va pas marcher, celui-là va marcher, etc. Mais si vous voulez, on a peut-être que grâce aux structures même du service public, au fait même qu'on ait une liberté économique totale, on n'a pas de pression économique à Radio France. Attention, on a des pressions politiques qui arrivent de façon extrêmement perverse et indirecte, mais pas de pression économique direct, puisque c'est vous qui nous payez, c'est vous qui payez cette radio, et ces radios, c'est-à-dire 12 à 13 millions de Français qui chaque jour se portent à l'écoute d'une des radios de Radio France, qui fait qu'on est la première entreprise culturelle en Europe. Donc on a une liberté totale au point de vue, mais donc on n'est pas obligé de penser à des clientèles, par exemple, on va pas se dire, tiens, il va falloir qu'on fasse des sujets sur les enseignants ou sur des sujets un petit peu plus écolo pour avoir cette clientèle-là, ça on n'y pense jamais. Mais si on se dit, par exemple, là, on veut partir faire des sujets sur une sorte de FARC qui existe en Inde, qui s'appelle les Naxalites, que personne ne connaît, on a très envie de faire un sujet comme celui-là. On sait très bien qu'au retour, ça n'intéressera pas grand monde. Voilà. Alors, il faut savoir que l'audience baissera pendant un certain temps et qu'il faudra qu'on fasse des sujets plus proches du public, des auditeurs ensuite pour remonter cette audience, ça on le sait. Voilà, c'est des choix qu'on fait. Alors on se dit oui, bon, ben, tant pis, on perdra un peu d'audience et puis on fera ensuite des choses plus de proximité. Tous ces calculs là on les fait et c'est les limites de notre travail. Mais je crois pas, enfin, on est après tout aussi on a beau être des journalistes, on est des gens qui réfléchissons aussi un petit peu, on a une pensée quand même, et penser, c'est penser les limites de la liberté. Donc, dans ce sens-là, je suis pas libre plus que vous et sans doute pas plus libre que mes camarades, mais j'essaye et nous essayons. Je suis pas le seul en avoir la conscience. Voilà.
Moi, je voulais demander, vous avez parlé de l'influence.
Je vous vois pas. Pardon. Ah oui, voilà, ça.
Vous avez parlé de l'influence de Chomsky aux États-Unis. et en France auprès des, notamment des mouvements altermondialistes.
Quelle est son influence ?
Pardon ?
Quelle est son influence dans le milieu altermondialiste ?
Notamment dans le mouvement altermondialiste.
Ah, je crois que maintenant, il a une certaine influence. Il a été, comme on l'essaye de l'expliquer dans le film, stigmatisé et marginalisé par une petite partie de l'intelligentsia française qu'on explique. Aujourd'hui, le temps est passé. On a réfléchi, on a compris. Il a quand même une influence, oui, à en juger au moins par les livres qui sont publiés, les livres de Chomsky qui sont publiés avec succès, à en juger par le dépit d'Alain Finkielkraut, on peut penser qu'effectivement, Noam Chomsky a une certaine influence sur ce que Finkielkraut traîne dans la boue quotidiennement. Non, il a une certaine influence. Mais je peux pas la mesurer exactement. Il faut d'abord que j'arrive à mesurer quelle est l'importance du mouvement altermondialiste français aujourd'hui. Mais non, je crois qu'il a une influence, même si c'est pas toujours facile. Même si c'est pas toujours facile, parce que, comme le dit Jean Bricmont dans le film, Chomsky ne rentre pas tout à fait dans nos catégories. Ainsi, chez les anards, ils sont un peu surpris. Tout d'un coup, on était à la CNT l'autre jour. Et là, oui, mais là, tout d'un coup, il défend l'État. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est que cet anarchiste qui défend l'État ? Qu'est-ce que c'est que ce gars qui se réclame de Marx, mais alors qui se met à critiquer telle époque des bolcheviques et qui critique Trotsky. Alors, bon, alors, ça va pas, ça choque tout le monde, etc. C'est d'abord parce qu'il a le goût de la provocation et un intellectuel qui n'aurait pas ce goût-là ne serait pas, à mon avis, digne de porter ce titre d'intellectuel. C'est le boulot des intellectuels. Mais aussi parce qu'il pense différemment. Il a une pensée différente qui est un mélange de valeurs occidentales, de penseurs occidentaux comme bon, Voltaire, etc., les Lumières, mais aussi toute une série de références bien à lui, dont Bricmont dresse la liste. J'ai pas la compétence de Bricmont pour le faire à nouveau devant vous, mais il y a une réelle originalité de la pensée de Chomsky, même si on voit les moments où elle est complètement baignée dans la culture états-unienne. Quand il parle des staliniens, on sent la culture anti presque du macartisme chez lui. Il est un intellectuel américain de Boston, c'est un juif américain de Boston et originaire de New York, donc il est fait aussi de toute cette culture-là. Il n'est pas à part. Chomsky n'est pas un homme à part. Son influence est grandissante, je pense, en France, à en juger encore une fois par les bouquins qui sortent et qui intéressent des gens jeunes, surtout depuis le 11 septembre, depuis le texte qu'il avait fait dans les jours qui ont suivi le 11 septembre et qui ont manifesté un très grand sang-froid par rapport à l'état de nausée et d'inhibition dans lequel nous étions tous, et qui s'est avéré, si vous le lisez, c'est un texte assez court, particulièrement clairvoyant et judicieux. Mais c'est pas toujours le cas, parce que là, il a prophétisé que Bowman ne serait pas élu, que ce serait McCain qui serait... qu'il emporterait, et heureusement, Chomsky s'est trompé. Chomsky n'a pas toujours raison.
Donc effectivement, on a bien vu qu'il était difficile à mettre dans une case, mais par contre, il y a un moment, il y a un bon passage du film sur Romain Baillargeon, qui d'ailleurs fait des bonnes chroniques dans Ciné Hebdo, qui lui, par contre, est clairement anarchiste, quoi. Donc pourquoi être parti justement sur Baillargeon et ne pas être resté uniquement sur Chomsky et sur le professeur belge qui, a priori, analyse...
Attends, je comprends pas. T'aurais voulu qu'on fasse un truc uniquement sur Baillargeon ?
Non, justement, non, je suis content d'avoir vu.
Ah, uniquement sur Chomsky.
Voilà, justement, je pensais que c'était vraiment centré sur Chomsky.
On a voulu décentrer, bon, il n'y a pas que Chomsky, il y a un courant, ouais, oui. Chomsky n'est pas seul. Jamais un intellectuel n'est seul. Bourdieu parlait de l'intellectuel collectif. Un gars comme Chomsky n'est pas seul. Il a des quantités quotidiennement d'informations, d'informateurs qui lui envoient des informations, des analyses, des réflexions. Donc il est nourri de tout ça. Donc il peut pas prétendre, il le prétend d'ailleurs pas, être seul, une sorte de Prométhée sorti de rien comme ça. Et puis il est repris par un certain nombre de chroniqueurs, d'autres intellectuels qui l'ont repris, dont des gens comme Normand Baillargeon, qui se réclament très directement de Chomsky, puisque c'est le titre de son livre sur le petit traité d'autodéfense intellectuelle, qui est une réflexion de Chomsky lui-même, qui dit dans un monde, je ne sais plus quelle est la phrase complète, il y aurait des traités, enfin, des cours d'autodéfense intellectuelle. Donc Normand s'est inspiré de cette phrase de Chomsky. Baillargeon est très proche de Chomsky, même si son type d'anarchie est un peu différent, sans doute. Je vous signale un livre de Normand Baillargeon sur l'anarchie précisément, qui est très intéressant, qui s'intitule L'ordre sans le pouvoir. Je crois qu'il est en vente d'ailleurs dans le hall, si je me trompe pas, et où Baillargeon fait l'état des différents courants d'anarchistes, ce qui est pas très clair pour nous en France, et il fait l'état des différents types de courants qui sont derrière ce mot d'anarchie, et c'est très intéressant. C'est un petit livre très court et qui montre que derrière ce mot il y a des choses tout à fait contradictoires qui se cachent, et que c'est un mot valise avec des choses très différentes à l'intérieur.
Que moi je voudrais demander pourquoi dans un film qui parle de la manipulation de la pensée, vous avez choisi de ne pas parler de la communication et de la manipulation par l'image, alors que c'est aussi super important dans les médias et dans toutes sortes de manipulations, quoi.
Je crois qu'on n'a pas écarté le thème, c'est un des aspects de la manipulation. Je crois que Normand, justement, évoque l'histoire du singe dans un groupe d'étudiants. On le montre toujours, c'est dans cette présentation-là. Oui, oui. Ça, on évoque cette partie-là. Oui, on évoque la. C'est un état d'esprit général, si vous voulez, que d'essayer de se désensorceler. Nous sommes en permanence ensorcelés par les images, par les mots. Et il s'agit pas du tout de refuser, de fermer les yeux, de devenir aveugle, de se rendre aveugle ou sourd à tout. Il s'agit pas non plus de vivre dans un état de défiance et de parano permanente, mais de savoir décrypter les pièges du langage, que ce soit le langage visuel ou le langage des mots ou le langage de la radio, par exemple. Et ce matin, il y avait un spectateur qui était particulièrement brillant et qui nous parlait du langage. Et il nous parlait d'un penseur qui s'appelle Feuerabend, que je connais pas, mais il parlait de comment l'adversaire nous emmène sur quand nous luttons et que nous il faut faire attention sur quel terrain nous allons sur le plan du langage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre adversaire a un langage et des mots. Et il faut d'abord décrypter ce langage, ce que j'appelle les entourloupes langagières, pour avancer dans la lutte. Je veux dire, prenons un exemple très simple, le mot libéral, par exemple. C'est un mot qui s'est installé il y a 25 ans dans le langage politique courant. On l'emploie à tout va. Et c'est un mot très, très ambigu. D'abord, c'est un beau mot. Il y a liberté dans libéral. Il y a toute une référence à notre histoire récente. Libéral, ça voulait dire dans les années 70, eh ben, plus de liberté, de mœurs, dans les rapports humains, amoureux, etc. Donc, c'est un mot plutôt sympathique. Dans le monde anglo-saxon, ça veut dire de gauche. Libéral, liberal. C'est la gauche. Et aujourd'hui, c'est un mot qui est employé un peu quand Delanoë dit je suis, ça vous gêne qu'on parle de Delanoë? Dit qu'il est libéral, c'est ce qui lui a valu de se retrouver complètement planté. Mais il a volontairement joué sur l'ambiguïté de ce mot pour dire, voyez, je suis un homme libéral, ouvert, tout ce que je viens de dire de gauche, etc. Mais en même temps, il voulait dire qu'il était néolibéral en ce qu'il était un social libéral, c'est-à-dire qu'il appartenait à ce courant du Parti socialiste français qui a été le moyen de faire rentrer le néo-capitalisme dans notre société en France. Donc il joue sur ce mot, c'est un jeu de mots que les gens ont compris, enfin au moins dans son parti, qu'il a valu de se retrouver là où il se retrouve. Mais j'ai pris qu'un mot là, et tout ce langage des dominants, de ceux qui dominent, est ainsi piégé. Alors là, c'est assez curieux parce que la crise économique dans laquelle on est entré a fait réapparaître le vrai mot, qui est le mot capitalisme, qu'on n'employait plus du tout. C'était un mot ringard qui appartenait au lexique des staliniens antisémites, etc. Et qui est revenu là récemment en toute force et qui était caché, qui était dissimulé derrière ce mot-là. Là, je viens de prendre un seul mot. Donc là aussi, alors c'est la même chose pour les images, c'est la même chose pour les combinaisons diverses et variées, c'est la même chose aussi pour le son. Alors ça fait de nous quoi? Ça doit faire de nous des gens méfiants en permanence. Non, ça doit faire de nous des gens qui devront développer ce sens critique. Chomsky dit un truc drôle, il dit c'est quand même extraordinaire à quel point les gens connaissent le langage des sports, du baseball ou du football américain. C'est extraordinaire. Regardez en France. C'est extraordinaire la compétence et la finesse de connaissance que beaucoup de nos compatriotes, pas seulement compatriotes, ont du foot. Ça m'arrive de prendre des taxis le soir avec des gars qui écoutent 4-5 matchs en même temps. Hein? Et qui connaissent tous les joueurs des 5 matchs. Donc ça fait 22 multiplié par 5 qui se récirent à l'intérieur de leur taxi sur les 100 joueurs qui sont en train de... Hein, on passe d'un match à l'autre. Ça suppose une connaissance, une finesse de... qui connaissent tous les coups, qui comprennent tout, qui voient tous ces matchs dans leur... Si on avait la même culture de notre situation politique, de l'avancée de nos luttes, les choses seraient peut-être un peu différentes. C'est à des choses comme ça qu'on voit qu'il y a des choses que nous n'apprenons pas, qu'on ne nous apprend pas. Comment se fait-il qu'on ne nous apprend pas un certain nombre de choses? Est-ce que c'est un refus organisé? Est-ce qu'il y a un complot, puisque c'est un des reproches qui est fait à Chomsky de relever de la théorie du complot? Ou bien est-ce que c'est autre chose? C'est cette autre chose qu'il a tenté avec Herman et d'autres de mettre en lumière et qui n'apparaît pas tellement dans la lumière, qui est cette ambiance particulière que revêt la propagande dans les sociétés libres et ouvertes comme la nôtre, où les choses se font dans le non-dit. Ça aussi, c'est un langage, dans le non-dit, puisqu'il y a une répression du langage chez nous à travers certaines lois qui interdit de dire ça. Mais dire ça, ça ne veut pas dire interdire de le penser. On ne peut jamais interdire aux hommes de le penser. Dès lors, il y a du sous-entendu, il y a du non-dit qui s'est installé dans nos sociétés. C'est par ces non-dits, que se transmet ces atmosphères et que vous savez que vous ne pouvez pas dire ça, que ça se fait pas de dire ça. Je peux aller jusque-là, je peux me conduire de telle ou telle façon, je peux choisir telle ou telle... Il faut que je me conduise à travers tout ça. Et c'est tous ces conditionnements dont Chomsky parle, et encore une fois, il n'est pas le seul. Et la question, c'est que nous parvenions à prendre conscience des conditionnements dont nous sommes l'objet.
Oui, je reprends par rapport à tes propos un passage du film où Chomsky dit que discuter avec les négationnistes, c'est leur donner une existence. Est-ce que on ne pourrait pas pousser cette pensée un peu plus loin en se disant que nous, citoyens quelconques, nous évoluons dans une société ayant une certaine idéologie? Et que cette idéologie est distillée par tout le monde, même par nous, même quand nous combattons dans un syndicat, même quand nous combattons dans un parti dit ou contestataire, parce que j'aime pas dire révolutionnaire, il n'y en a pas, tel que l'extrême gauche.
J'ai pas très clairement compris.
Oui. Je rapprochais tes propos. Mmh. Avec le propos de Chomsky qui disait qu'il refusait de discuter avec les négationnistes parce que c'était leur donner une existence.
Oui, c'est ça.
Je pousse l'idée un peu plus loin en me permettant de penser que nous-mêmes, dans une société capitaliste, si l'on est opposé à la société capitaliste et qu'on prend des moyens légaux pour la contester, on participe aussi à son élaboration, à son évolution et à son maintien.
C'est ce que j'appelle l'autruche capitaliste. Le capitalisme est une autruche capable de tout avaler, de tout digérer, à commencer par ses adversaires et ceux qui luttent contre elle. Mais c'est contre cette force amorale et absurde et folle, mais extrêmement forte, qu'est le capitalisme. C'est dans cette lutte que s'est construite notre histoire du 19e et du 20e siècle, dans cette lutte entre, disons, simple, pour simplifier beaucoup, entre le travail et le capital, que s'est située notre... que se situe notre histoire et continue de se situer notre histoire. Alors évidemment que c'est qui mange qui. C'est un peu une guerre, si tu veux, qu'on pourrait, ou une lutte, qu'on pourrait appeler la lutte des classes, par exemple. Mais c'est vrai que nous y perdons des plumes et qu'eux en perdent aussi quand même parfois. Je rappelle le titre d'un bouquin de François Ruffin qui travaille dans l'équipe de la Basse Égypte, qui s'appelle précisément « La guerre des classes ». Et qui commence par une citation de Warren Buffett, le milliardaire américain conseiller d'Obama. Et Warren Buffett dit, mais bien sûr qu'il y a une lutte de classe. Bien sûr qu'il y a une lutte de classe, mais nous sommes en train de la gagner. Mais je crois que le fait, la crainte de nourrir l'adversaire ne doit pas nous paralyser. C'est le jeu, quoi. Personne ne dit que nous perdrons toujours. Personne d'ailleurs ne dit que nous perdons. Et personne ne dit que nous perdrons toujours. Le capitalisme a été fait par des hommes. Le capitalisme ne durera pas toujours. Ce qu'on peut espérer, c'est d'en accélérer le terme. C'est ce qu'on peut espérer. Mais c'est quelque chose qui finira. Parce qu'il s'agit d'une idéologie, ni plus ni moins. Enfin, au moins, ce qu'il défend est une idéologie. Contrairement à ce qu'on nous avait dit, on nous dit souvent, on essaye de nous faire croire souvent, et contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant un bon quart de siècle, en me disant qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien d'idéologique là-dedans, que c'était l'ordre naturel des choses. Et ça, ça a été répété à longueur de journée dans toute la presse, sur toutes les télévisions et sur toutes les radios du monde, y compris sur une certaine radio quotidiennement. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit en train de changer, mais la conscience en est peut-être aujourd'hui plus claire.
Quelle a été la durée d'entretien pour réaliser le film et quels ont été les partis pris pour monter le film à la fin? Vous disiez tout à l'heure, le journalisme, c'est choisir.
La durée des entretiens, c'était 2 fois 1 heure. Les horaires avec Chomsky, ce qui est très, très, c'est très, très précis. Donc, il nous faisait peu de temps, étant donné le temps pour les traductions. Ça dure un petit peu plus de temps que ça. Et j'étais venu avec une 50aine de questions et on en a posé 4 ou 5. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés. Évidemment, j'aurais bien voulu qu'ils développent sur le Moyen-Orient, sur le Proche-Orient, sur beaucoup d'autres sujets. Mais voilà, donc 2 heures d'entretien. Et quant au choix qu'on a opéré ensuite, ça a été les mêmes. Ce qui nous a guidés dans le choix, c'est ce qui nous guide aussi dans l'émission tous les jours, c'est vous. C'est vous, c'est le public. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En quoi est-ce que on peut intéresser un public avec ça? Quel public on va viser? Qu'est-ce que ça va faire? Enfin, ça, c'est toute la réflexion qui nous a accompagnés tout le temps, qui des fois est dite et redite, puis des fois ça se fait, vous savez bien ce que c'est que ce travail, quoi. Des fois ça se fait sans aucune espèce d'échange et on coupe ça parce que il faut couper ça parce que c'est trop, puis voilà. Puis des fois c'est le fruit de longues réflexions. Il y a du tâtonnement là-dedans, il y a de l'intuition, il y a de la, mais notre but quand même c'est le public, hein, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça va faire. On veut s'adresser à un public assez large, on sait bien que on peut pas, avec un sujet comme celui-là, toucher un très très large public, mais quand même un public assez large, qui est au fond le public de France Inter, qui est le public de la Basse si j'y suis. Mais sur les choix techniques, et Azam peut peut-être vous dire comment il a bossé.
J'aurais pu répondre sur la durée, parce que ça c'est facile. Mais sur c'est vrai qu'on a fait pas mal de versions du film. Hein, on se rend pas compte quand on voit un film, mais tant mieux parce que c'est fait pour quoi. C'est pas fait pour un film, c'est pas fait pour qu'on voit chaque point de montage. Hein. Mais il y a eu pas mal d'une vingtaine, je sais pas, peut-être même une trentaine de versions parce que on a pas mal tâtonné sur des séquences tout bonnement parce que le film était pas il était pas tourné pour être un film quoi. C'était une émission de radio. Donc après il fallait construire un film et c'était pas du tout la même écriture hein, parce qu'ils étaient partis sur l'idée de faire je crois il y a 7 émissions hein, sur qui a été faite autour de ces entretiens. Et nous, la difficulté, c'était d'en faire juste un film, enfin en tout cas, essayer de construire ça. Mais un des boulots qu'on a fait, et qui nous a pris beaucoup de temps, par exemple, parce qu'on a fait comme si on a fait un vrai travail de journaliste, hein. On a fait de la recherche pour savoir déjà si ce que disait Chomsky était vrai, quoi. Enfin, les exemples qu'il prenait étaient... il ne s'était pas trompé, par exemple, sur les chiffres et tout ça. Et moi, j'étais assez étonné par la vivacité et la justesse on l'a pas pris en défaut en fait et ça sur ce qu'on avait en entretien notamment les exemples qu'il donnait historiques les dates les chiffres et ça c'est assez impressionnant quand même hein. Et donc on a fait un travail de documentation qui a été important avec des documentalistes qui ont travaillé en allant chercher des archives on a récupéré des archives un peu de partout des choses qu'on a piquées sur internet très loin après qu'on a essayé de retrouver des choses qu'on a pris à l'INA ça c'est plus facile et des choses qu'on nous a envoyées par exemple les images de la Bolivie sont des images nous on a fait c'est intéressant de voir aussi sur les archives comment la mémoire et l'histoire est racontée par nos archives et par nos médias par exemple sur Chomsky ce que vous aviez constaté sur l'émission de radio c'est qu'il y avait pas il y avait peut-être pas même pas 2 heures au total hein, je crois sur 50 ans de la radio française qui parlait Chomsky jusqu'à l'émission de la Bastille j'y suis et on a constaté en archives vidéo qu'il y avait rien sur l'INA par exemple. On parle, les deux fois, on parle de Chomsky, c'est Phil Kellcroft qui en parle là, et peut-être Philippe Val dans une émission qu'on n'a pas jugé utile de mettre parce que c'était bon. Il n'est pas encore assez grand, Philippe Val. Mais, et donc, en fait, ça, c'est intéressant aussi. Et notamment sur le fait que, par exemple, sur l'histoire de l'Amérique latine, on trouve quasiment rien en France. Et je crois que la recherche qu'on a fait sur les archives de Chomsky illustre exactement ce que raconte Chomsky tous les jours. Cette comparaison qu'il fait entre les événements qui sont surmédiatisés et ceux qui sont absolument pas médiatisés. Et l'exemple de la Bolivie est un assez bon exemple.
Je voudrais que vous nous parliez un peu de Chomsky universitaire, parce que bon, on voit le Chomsky homme bon intellectuel qui aborde effectivement la manière dont il conçoit le monde dans lequel il vit aujourd'hui, mais Chomsky, avant tout, c'était, enfin, pour les gens qui ont entendu parler de Chomsky dans les années 60, c'était un linguiste qui était un disciple de Saussure et qui s'était emparé de la pensée structuraliste de Lévi-Strauss. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de cette école et est-ce qu'il considère que la pensée sa pensée en tant que linguiste est encore une portée aujourd'hui dans le monde universitaire.
Alors, Chomsky fait bien la différence quand, évidemment, on lui pose la question quel lien il y a entre votre travail de linguiste et votre activisme. Il dit qu'il n'y a pas de lien. On n'est pas obligé de faire un lien. Il y a peut-être un lien, dit-il, mais il ne tient pas à construire quelque chose là-dessus, ni à établir quelque chose là-dessus. Pour notre part, vous avez vu, on s'est pas du tout intéressé à Chomsky, le linguiste. Donc, je peux absolument pas répondre à votre question. Je vous invite, par contre, à lire le numéro de Lerne, les éditions de Lerne, consacrées à Chomsky, qui sont sorties en avril l'année dernière, qui sont très complètes, c'est quand même relativement court, relativement bref, mais très dense, et qu'il retrace l'ensemble du travail de Chomsky à travers toute une série de contributions, et notamment des contributions et des analyses sur son apport en linguistique. Mais lui-même ne fait pas de lien, donc. Et l'ensemble de ce travail-là de réflexion sur ce qui fait la matière de ce film, c'est-à-dire la politique de son pays, la manipulation de l'opinion, etc., c'est fait d'une manière extrêmement simple. Vous avez vu, il se contente de comparer certaines informations, de rapprocher certaines informations pour mettre des choses en évidence par rapprochement de situations. C'est donc des raisonnements et des rhétoriques très simples, très très simples, qui sont celles de l'homme du commun. C'est le common sense d'Orwell, quoi. On dit, bon, ben, pourquoi est-ce que cet évêque, là, serait plus intéressant que celui-là? Pourquoi est-ce que ce meurtre-là est 100 fois plus intéressant que celui-là? Pourquoi est-ce que les massacres des Khmers rouges sont évidemment des désastres, ne sont traités comme ils le sont, avec tellement d'hystérie, alors qu'on ne parle pas du tout de ce qui, au même moment, se passe au East Timor, au Timor Est, alors qu'on peut agir sur le Timor Est. C'est très simple. Vous voyez, ce travail est très simple. Ce qui n'est pas simple, évidemment, mais ça, c'est le minimum de responsabilité des intellectuels, c'est de trouver ces informations, qu'elles soient, comme dit Azam, qu'elles soient parfaitement recoupées, qu'on puisse s'appuyer sur les informations sur lesquelles lui-même appuie ses réflexions, mais sur lesquelles il appuie nos réflexions, par exemple. Au début du film, on compare ce fait divers, ce massacre dans cette école, et il parle de Iquique, ce qui s'est passé dans le nord du Chili. Vous vous souvenez de cet épisode-là? On a eu du mal à trouver des archives sur ce qui s'est... On a appelé au Chili, on a cherché, on a trouvé... Olivier et son équipe ont trouvé quelques images là-dessus. Mais c'était en avril 2007. Or, l'anniversaire de ce massacre, c'était à l'automne 2007. Et il y a énormément d'images parce que le Chili a célébré cette année, le Chili, enfin disons, peut-être pas de gauche, mais en tout cas sorti de la dictature, a célébré, a remis cette tragédie à sa juste place dans l'histoire sociale et politique du Chili. Là, c'est un Chomsky qui éclaire tout d'un coup. Mais pourquoi est-ce qu'on a occulté ce massacre? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est Pinochet, des années de dictature qui ont occulté ça. C'est ça la réponse. C'est aussi évident que ça. Même si, par parenthèse, l'Equila Payun, que vous connaissez peut-être, un groupe chilien, avait fait un grand morceau de musique, d'ailleurs très beau, sur ces massacres d'Iquique. Là, à chaque fois, c'est des comparaisons. Pourquoi est-ce qu'on nous mobilise sur le massacre de Virginia Tech? Ce qui est évidemment émouvant, c'est terrible. Mais en fait, il n'y a pas de sens politique à ça. C'est un jeune garçon dérangé. On va mobiliser notre attention. Quand on était aux États-Unis, on ne pouvait pas tourner la tête. C'est, tout le monde était dans cet état de sidération, d'émotion. Il est fou, il se prend pour Jésus. Enfin, vous connaissez bien ces emballements médiatiques successifs. On en a régulièrement chez nous, sans qu'on puisse leur donner de sens. Ce qui fait qu'on finit par confondre un accident d'autocar et un génocide. Parce que c'est au même niveau. On met ces choses-là au même niveau. C'est pour nous suggérer de faire des différences entre tout ça que Chomsky opère. Mais encore une fois, pour vous répondre, voilà, on n'a pas du tout travaillé sur la linguistique.
Je voulais faire une réflexion par rapport à ce que disait le monsieur tout à l'heure sur le fait d'accorder une interview, de parler à un négationniste et de lui donner de l'importance. Il m'est venu cette idée. Et en fait, ensuite, il prolongeait en disant « Oui, mais à ce moment-là, le mouvement contestataire, est-ce qu'il ne donne pas trop d'importance au mouvement capitaliste, enfin à l'empirisme ?» C'était ça, en gros.
Oui.
Et ça me faisait penser à quelque chose d'étrange, en fait. Je ne sais pas, mais les pensées, le cerveau, il connecte plein de choses, alors... Je sais pas.
On va voir ce que ça donne.
Vous allez me dire. Hein. Avec une vision philosophique ou psychologique, on peut dire que, d'une certaine manière, il y a un art de combat qui s'appelle le Tai Chi Chuan, qui intègre l'énergie de l'autre.
Ouais, le Aïkido syndical, ce que Beauvais appelle le Aïkido syndical.
Ah, j'avais aucune connaissance de ce qu'avait dit Beauvais. Ouais. Et ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire qu'en fait,
utilisons la force du capitalisme pour construire le socialisme.
On contre pas l'idée, c'est voilà, de ne pas mettre un mur, mais de la prendre, la force, l'entraîner à soi. Et du coup, le gars, il se retrouve à 10 mètres derrière, en fait. Hein, et on n'a pas bougé. J'en ai fait un petit peu. Donc ça fait du dégât.
Ok. Ben on va essayer de s'y mettre alors.
Et vous avez, oui. J'avais une deuxième réflexion par rapport à objectivité et,
oh.
objectivité et liberté.
Pourquoi objectivité peut, et liberté.
Pourquoi on ne peut pas les mettre ensemble? Ça me faisait penser à autre chose.
On va voir ce que ça donne.
De la force de
l'autre. Ouais.
À New York, aux États-Unis, en laboratoire, des scientifiques ont remarqué sur des expériences en physique quantique que lorsqu'ils observaient une expérience, ça modifiait le cours de l'expérience. Ah. Objectivité et liberté. Si on veut être objectif, on changera le cours de l'expérience de notre réalité. Donc, ça c'est... Oula, oui.
Ouais.
Oulala là là. Okay. Voilà, c'est tout. Et
merci.
J'avais une question.
Merci. Ok, d'autres réflexions, d'autres questions ?
Ça reviendra plus tard.
Merci.
Bonsoir. La question vient d'ici.
C'est bien, oui. C'est pas qu'on est sourd, c'est que la sono est derrière nous et pour nous, vous venez de là.
Bon, je vais me lever si vous voulez.
Voilà, merci. Superbe.
Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté ce film. C'est très chouette. Et en fait, j'ai deux questions, une pour vous et une pour Monsieur Azam. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais savoir que vous nous parliez un peu plus longuement du rapport de l'émotion avec les médias, l'émotion médiatisée, et la peur qu'on nous fait porter pour nous faire aller dans un certain sens. Ça marche bien, hein. Je vois que ça marche très bien. Et d'autre part, Monsieur Azam, le film, il a pas coûté cher, capitalistiquement parlant. 2 heures d'interview, c'est pas cher, un bon format. Et puis si on réfléchit bien, on peut même le traduire et l'exporter. Merci beaucoup.
Voilà. Parle un peu de sous.
Je vais parler pognon parce que c'est la réalité aussi du cinéma. Un film, il coûte cher en fait, hein, mais bon, ça. On le voit pas parce que y a pas des effets spéciaux infernaux, mais vous savez, quand on fait un film, c'est pas tellement le tournage. D'ailleurs, il a pas coûté très cher. Effectivement, le tournage a pas coûté très cher. Ce qui coûte cher, le film doit coûter aujourd'hui, hein. Peut-être que le tournage a dû coûter 2 000 euros. Mais aujourd'hui, le film doit être à 200 000 euros à peu près. C'est-à-dire que, et c'est en dessous des budgets de films normaux, hein. Mais donc ça coûte pas cher effectivement. Mais vous savez, entre le moment où on a tourné et le moment où on a fini de monter, il y a d'abord des mois de montage pendant lesquels on s'est un petit peu payé. Désolé, pas très cher. Il y a des droits d'archives, hein, qui sont assez chers. Il y a beaucoup de prestations et des trucs absurdes. Mais à la fin, on aura envie de faire un petit sujet pour raconter comment ça se passe parce que c'est assez rigolo. Par exemple, quand vous voyez un film en stéréo. Nous, on tourne avec des micros stéréo, hein. Enfin, on fait du son stéréo pour qu'il y ait du deux côtés. Vous devez payer une taxe à Dolby Stéréo, par exemple. Vous voyez, ça coûte entre 1 500, je crois, et 2 000 euros. Ça dépend du nombre de copies. Il y a des tas de choses comme ça absurdes qu'il faut payer, qui font que le cinéma, ça coûte un peu cher. Mais surtout, ce qui coûte cher, c'est après de faire des copies. Et là, vous avez une copie, malheureusement, vidéo, parce que la copie 35 n'était pas encore arrivée. Mais on a eu quand même 70 000 euros de copie 35, hein, qui sont heureusement couverts par l'aide après réalisation du CNC qui nous a permis de le faire. Mais on pourra vous détailler un peu, c'est assez intéressant de savoir où va l'argent sur un film. Et nous, comme on a fait sur souscription, c'est particulièrement intéressant de le communiquer, quoi. Parce qu'effectivement, on s'y attend pas. D'ailleurs, nous, on voulait pas faire un film cher. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, quand on continue, le film coûte de plus en plus cher. Quoi.
Et puis, il y a des charges. Moi, ce que vous connaissez le problème des petits patrons, c'est qu'on a des charges aussi.
Il y a beaucoup de charges. Et on paie la TVA, je tiens à vous le dire.
Il n'y avait pas une autre partie dans la question ? La question de l'émotion. Comment on manipule l'émotion et comment ces émotions montent, c'est une question très 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 intéressante. Il y a tout un courant qui dit pas d'émotion du tout. Mais comment fait-on pour ne pas être ému ? C'est pas facile. Comment fait-on pour freiner cette émotion ? Au moins peut-on ne pas la fabriquer ? Peut-on en limiter l'expansion ? Bon, on sait bien que c'est un moyen formidable de manipuler. Enfin, ça, on le sait bien, on l'a vu pour le 11 septembre. On le voit actuellement dans ce climat de peur qui est distillé partout, qui nous terrorise. Les têtes rentrent dans les épaules. Là, ça fait chaque jour un centimètre de plus. Bon, on voit bien que là, il y a une manipulation. Comment résister à ça? Il faut être très costaud pour résister à ça. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt accepter une part de cette émotion? Et à savoir réfléchir plus sur notre émotion plutôt que de la rejeter et de nier l'émotion. Il y a une phrase de Braque, je ne vais pas faire l'érudit, de Georges Braque, qui dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion. J'aime la règle qui corrige l'émotion. J'aime la raison qui corrige l'émotion. » Nous, dans notre travail, la basse musicienne, on fait très attention à cette matière explosive et manipulatrice qu'est l'émotion, mais on ne dit pas qu'elle n'existe pas. Dès lors qu'on veut faire des émissions populaires, qu'on veut aller vers un grand public, on ne peut pas ne pas réfléchir sur l'émotion. L'émotion est manipulatrice, mais c'est pas pour autant qu'on va l'écarter complètement, parce qu'on peut pas tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion qu'on va susciter, qu'on va utiliser, quelle place on va donner? Est-ce qu'on va se contenter de ce que nous ressentissons nous aussi, de notre propre ressenti, ou bien est-ce qu'on va essayer de plus réfléchir sur cette émotion? C'est tout ça qui nous, c'est notre travail quotidien. Et là aussi, même si quand même dans ce film la part essentielle est donnée à la raison, au raisonnement d'un penseur américain qui est quand même très très largement issu des lumières européennes et de la pensée aussi américaine. Les États-Unis se résument pas à George Bush. W.
Oui, monsieur Mermet, j'ai beaucoup aimé votre film, et en particulier certains passages du film, entre autres l'interview de l'intellectuel canadien qui était très sympathique et très, très passionné, on va dire. Et aussi que vous montrez bien dans le film que les gens qui font les luttes, qui gagnent finalement les luttes contre le pouvoir, ce sont des gens modestes, simples, les gens du peuple. Et ça, vous le montrez bien. Et en même temps, j'ai trouvé que, disons que, il me semble qu'il y a un décryptage de, comment dire, une analyse assez fine qui nous permet à nous, si on y réfléchit après, de bien décrypter comment lutter contre la manipulation et contre la propagande. Et il me semble qu'à notre époque, précisément, ça, c'est de plus en plus important de savoir lutter contre ça.
Oui, c'est pas toujours sûr que le peuple ne se trompe pas. Vous avez entendu parler de l'Anschluss, par exemple. J'avais rencontré à Vienne une dame magnifique qui était une intellectuelle et qui était une psychanalyste. Ça vous étonnerait pas qu'elle soit viennoise. Et elle disait, elle avait travaillé toute sa vie sur pourquoi ai-je applaudi Hitler quand il est rentré dans Vienne. Pourquoi ai-je applaudi Hitler? Elle était une petite fille, elle a applaudi Hitler. Elle était juive, elle était viennoise. Et c'était toute sa vie de savoir pourquoi est-ce que nous applaudissons. Ça rejoint ce que disait notre ami là sur l'émotion. Il n'est pas toujours sûr que le peuple ait raison en tout. Même si c'est un petit peu notre tropisme, surtout à ceux qui en sont originaires. Mais c'est quand même pas toujours comme ça que ça marche. Et on voudrait bien que ce soit comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Le peuple se gourre aussi. Il risque de se tromper à nouveau d'ailleurs là avec ce qui va se passer, parce que je pense que la pression et les destructions massives d'emplois qui sont en cours, cette précarité grandissante qui va revenir, mais cette fois en force, face à des impossibilités, des manques d'expression politique, risque de favoriser à nouveau des montées incontrôlables, et on risque de voir à nouveau, comme je l'ai vu, et vous aussi d'ailleurs tous, on l'a vu, des gens manifester derrière des drapeaux plus ou moins bruns et plus ou moins puants. Il se peut que cette chose-là se reproduise. Heureusement, nous avons Hortefeux, je suis Hortefeux, qui nous prémunit de ça, mais ça durera peut-être pas éternellement. Je crois pas que le peuple ait toujours raison. Les intellectuels non plus. Et les journalistes encore moins.
Alors, d'abord,
encore quelques questions.
D'abord une petite remarque, juste, je suis auditeur depuis longtemps, de là-bas j'y suis.
Souscripteur aussi, alors je suis
content. Ah, souscripteur, formidable.
Ouais, ouais, mais je suis content justement de l'investissement plutôt que, je sais pas, Microsoft, Total.
Vous avez un retour sur investissement ce soir. Vous avez placé bon. Du pognon là-dedans et voilà ce que ça
ah,
fait.
Ah, mais c'est super.
C'est et un puis, actionnaire, c'est, ce gars-là est un actionnaire.
Voilà. Et je.
Ah oui, non, mais c'est vrai. En
plus, je retrouve donc l'émission de radio qui est la même modestie et le film est aussi génial. Alors là, en fait, il y a de la question, c'est. Comment est venue cette idée justement de passer de la radio à l'image. Et bon, mais par contre, c'est toujours aussi modeste. Est-ce que ça va se refaire? Moi, je suis partant. Et
ah bah voilà, ça, c'est voilà. Ça qu'il faut nous dire.
Je peux pas tout financer.
Non, mais une partie, on va parler tout à l'heure. À la sortie, on s'attend. Là. Ouais. Non, non, ben, c'est simplement... C'est pas la première fois hein, qu'on fait d'autres choses que de la radio. Il y a eu une chorégraphie faite avec des reportages de la Bastille. C'est une très belle chorégraphie qu'avait fait un chorégraphe lyonnais, qui a tourné d'ailleurs un peu partout, en France et dans le monde, avec des reportages. J'ai monté un spectacle de théâtre avec Antoine Chao à la Maison de la Culture d'Amiens, qui s'appelait « Mord la main qui te nourrit ». Avec des chômeurs, on a monté un spectacle là. Et puis quand j'ai rencontré, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des images. Et bon, il y a pas le Yalta que certains veulent absolument entretenir entre la radio, la télé ou les sons, les images. Je crois que c'est des langues, par contre, très différentes. Il faut faire très attention. On passe d'une langue à l'autre, et il faut faire très gaffe parce que on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Mais enfin, il y a quand même un fond. Il y a des choses en commun et puis des choses qui sont très différentes. Pour en faire la part. Mais c'est bien quand on travaille avec quelqu'un qui ne connaît pas le son, enfin qui ne vient pas du monde du son, qui est comme complètement image. Donc on peut voir comment ça se passe. Et voilà, voilà, mais il y a une autre réception, il y a une autre force, il y a aussi une autre réception. C'est-à-dire que la radio est un média génial, mais c'est un média qui vous laisse le corps libre, vous bougez. Voilà, vous allez te répondre au téléphone, vous occupez des mômes, etc. C'est une attention parfois un peu flottante. On peut le regretter. Nous, on voudrait que vous bougiez pas devant votre poste. Mais enfin, on a remarqué que, voilà, c'est un média qui laisse le corps libre depuis l'invention du transistor. Hein, c'est important. Alors que le journal vous assigne à l'immobilité, la télé vous assigne à l'immobilité, et là, vous êtes immobile et assis. Mais c'est une plus grande réception. Vous êtes très réceptif. Un peu moins peut-être qu'au théâtre. Je pense que c'est au théâtre qu'on est le plus réceptif parce qu'il y a des vrais êtres humains qui gigotent et qui braillent et qui sont là. Mais le cinéma arrive juste derrière. C'est un art forain. C'est un art. Ils ont construit un truc qui est vachement forain. C'est magnifique. Ça reste un art forain. Voilà. Et c'est une autre réception. Il a fallu 7 heures de radio pour arriver à peu près au même, comment dire, au même résultat, vous voyez, au même impact, au même, voilà. Donc c'est passionnant de passer d'une langue à l'autre. Je sais pas si ça peut relever de la linguistique, mais en tous les cas, des langages différents et c'est absolument passionnant. Mais pour finir, préparez vos sous parce qu'effectivement, on va se lancer dans de nouvelles aventures. Là, on pense qu'on va se lancer dans une, on voudrait en finir avec le capitalisme pour répondre à... Donc on va se lancer probablement dans cette aventure. Moi, je voudrais bien, avant de mourir, parce qu'il me reste encore quelques années à vivre, en finir une bonne fois pour toutes avec ce capitalisme. Et donc je pense que Azam va m'aider. On va partir tous les deux, voilà, interroger tous ceux qui ont réfléchi là-dessus pour nous dire comment faire pour en finir avec... Avec le capitalisme, j'ai vu que, par exemple, Nicolas Sarkozy a envie de refonder le capitalisme. Ben, c'est quelque chose qui nous intéresse. Nous, ça nous intéresse. Parce que tout le monde fait le même constat en ce moment, hein, sur l'horreur économique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut en finir, que c'est plus possible, ce néolibéralisme, c'est plus possible. La question, tout le monde fait la même analyse, c'est celle qu'on faisait à Attaque en 98, c'est celle qu'on faisait en 95, c'est celle qu'on faisait en 92 ou 93 dans la Bastille, j'y suis, quand on parlait de l'économie de marché. On était les seuls, on était les staliniens antisémites déjà à l'époque. Mais maintenant, tout le monde est sur le même constat. Mais par contre, les remèdes qui sont esquissés différents sont très différents. Par exemple, l'hebdomadaire Marianne, qui a été formidable pour pour décrire et détruire et critiquer ce néolibéralisme, a pour remède François Bayrou. Bon. Hein, c'est Jean-François Kahn, qui est un journaliste absolument génial, a trouvé que c'était, voilà, François Bayrou. Nicolas Sarkozy, un autre anticapitaliste, dit bon, on va réguler, hein, attention. Et les paradis fiscaux, si ça continue, les paradis fiscaux, attention, hein, voilà. Et on va, d'ailleurs, moi, je vais tout de suite à Washington, on fait le G20, et vous allez voir que, attention, hein. Et moi, je connais Obama, attention, alors, attention. Bon, alors, voilà, il y a quelque chose qui s'amorce aussi de ce côté-là. On a le Parti Socialiste, au cours de cette campagne qui nous passionne, qui nous empêche tous de dormir, on a entendu des choses extraordinaires. On a entendu que les temps changent, le monde bouge, et il faut un nouvel élan maintenant. Donc je pense que ça vient de gens qui font le constat, le même constat que nous, le même constat que Jean-François Kahn, le même constat que Nicolas Sarkozy et celui qu'on fait depuis des années. Voilà. Et là, je pense que dans cet élan, dans cette, il faut se rassembler, voilà, et tous ensemble, en convergeant, on pourra arriver à relancer et rajeunir et repartir, rebondir maintenant, parce que c'est nécessaire à notre époque et dans l'histoire que nous vivons et par les temps qui courent. Il faut tout ça. Je pense qu'on peut faire confiance à ces gens-là pour. Vous avez aussi l'extrême droite qui a des réponses à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en ce moment fait le même constat. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir peut-être voilà toutes les propositions qui sont faites pour en finir avec le capitalisme. Ça peut être notre prochain sujet. Donc à l'année prochaine ou dans 10 ans, c'est pas quoi. Pour la fin du capitalisme, en tous les cas, on se retrouve quoi. Rendez-vous 3 heures après la guerre.
Bon, MGS numéro 1789. Par rapport à Chomsky et compagnie, c'est-à-dire tout le courant de pensée qui se rapproche de lui, est-ce qu'il y a une perception d'une fascisation d'un genre nouveau en Occident qui se percevrait?
Sans doute pas de la façon que vous supposez quand vous dites le mot fascisme. On va commencer à partir de mercredi une série de reportages en Italie avec la Ligue du Nord. Toutes ces choses-là changent de masque, connaissent des avatars et des métamorphoses. Il ne faut pas être en retard d'un avatar et d'une métamorphose. Les gens que nous avons rencontrés de la Ligue du Nord, la veille on était à la fête de l'humanité, c'était à peu près les mêmes gens, très sympas, très souriants, très chaleureux. Et il s'agit de xénophobes tout à fait débonnaires, tout à fait sympathiques, de gens absolument racistes, mais souriants, sympas, populaires, vous tapant dans le dos et pas du tout agressifs et tout à fait souriants et qui vous expliquent, moi tu comprends, moi j'ai une fille, je voudrais vraiment que ma fille vive sa vie et épouse qui elle veut, qu'elle épouse un arabe, un rome, ça me pose pas aucun problème. Mais je pense qu'elle sera pas heureuse, tu vois, si elle épouse un arabe ou un rome. Donc c'est quelque chose que je lui déconseille fortement parce que c'est pas moi, mais c'est le regard des autres. Tu comprends? Si elle épouse un rome, il y aura les arabes qui la regarderont de travers, etc. Oui, c'est des formes. À chaque fois, ça change. Non, mais c'est très important de penser assez vite, quoi. C'est pour ça que c'est précieux, que Chomsky nous est précieux, parce qu'il pense l'événement. Il fait partie de ces intellos qui pensent l'événement. Je reprends l'expression d'Anna Arendt. La plupart se contentent de nous pondre des livres. On devra avoir dans quelques mois un livre sur Ingrid Betancourt, si ça continue. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 6 mois, 1 an, 2 ans après qu'on a des études, mais qui sont, quand les choses sont refroidies. Chomsky intervient assez rapidement, généralement, hein, très rapidement, mais il n'est pas le seul non plus. Et là, on voit comment, ce contre quoi nous luttons, enfin, la plupart d'entre nous, j'espère et je suppose, change vite. Change vite. C'est pas que les temps changent, comme le dit Martine Aubry si judicieusement, c'est que ces masques changent, ces avatars successifs s'enchaînent parfois à notre insu et nous restons toujours à attendre des bruits de bottes, alors que c'est simplement, ça revient, mais sur des pantoufles, tout doucement, tout gentiment. C'est un des argumentaires de ce film, d'essayer de démontrer comment s'installe le lavage de cerveau en toute liberté. Quant à, aux inquiétudes de Chomsky sur un retour du fascisme en Occident, c'est ça votre question ?
Pas un retour, une nouvelle forme, disons, de totalitarisme. Quand on voit toutes les situations actuelles qui échappent totalement à la population, on voit bien qu'il y a une aristocratie en haut qui mm-hmm. s'installe pour longtemps.
Oui, qui est installée depuis longtemps.
Et qui met en place des outils, tout comme Chomsky ouais. en produit, ouais. Met en place des outils pour se maintenir longtemps au pouvoir.
Oui, oui. Mais ça dure depuis longtemps, ça. C'est ce contre quoi c'est le combat, vous êtes en train de décrire, le combat de Chomsky contre ses pouvoirs et ses moyens de se maintenir et ses moyens d'entretenir sa domination. Simplement, j'attire votre attention sur la capacité, parce qu'on parlait tout à l'heure de la capacité du capitalisme à tout avaler. J'évoquais l'autruche capitaliste. Vous voyez qu'un jour, c'est une autruche. Un jour, c'est ces déguisements successifs que nous avons à essayer, tant qu'on peut, à deviner, à comprendre au fur et à mesure qu'ils se produisent. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Mais bien évidemment qu'il s'agit d'une lutte très ancienne contre ce qui nous domine, y compris ce que nous acceptons nous-mêmes comme soumission. La phrase de la Boétie, évidemment, ils sont grands que parce que nous sommes à genoux, est quand même importante là-dedans. On ne pourra pas éternellement se contenter de dire c'est de la faute des puissants. La faute est aussi la faute, oublions ce mot, la responsabilité. Pas confondre la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité, elle nous incombe. Je vous rappelle la phrase célèbre d'un homme relativement célèbre qui est en train de retenir à la mode et qui disait l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Il s'appelait Karl Marx, il a laissé un nom dans l'histoire. Ce sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et je pense que en ça, alors là vraiment, Chomsky est marxiste au moins pour cette idée-là. Tout son boulot, toute sa pensée va vers ça, va vers nous inciter à cette émancipation, à copier son travail et sa façon d'approcher les choses, finalement très très simplement, par ses comparaisons, par ce désensorcellement du langage, des images, et cette aspiration à notre émancipation. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que nous aspirons à cette émancipation. Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avons fait des progrès. Je mets ce mot-là volontairement entre guillemets, mais nous avons fait des progrès. C'est curieux, vous n'avez pas parlé de ça, mais dans tous les débats que nous avons, les gens me disent « Mais attendez, Chomsky parle de progrès, mais vous êtes sûr qu'on fait des progrès, etc. » Et hier soir, on était à, on était à Cahors, et alors on parlait beaucoup sur le progrès, et à la fin, il y a une dame qui est venue nous remercier, qui était une dame de la mairie, qui était une dame la responsable culturelle de la culture à la mairie de Cahors, qui est venue très gentiment nous remercier, etc. Et alors, comme s'il y avait un côté un peu récupération de la part de la mairie, il y a des applaudissements, puis il y a eu des petits coups de sifflet prévisibles. C'était très souriant, c'était très sympa. Et aujourd'hui, je disais à Tournefeuille, au sujet du progrès, je leur disais, voyez, il y a quand même des progrès. Parce que cette dame, elle est antillaise. Hein? Donc je disais, voilà, est-ce qu'il y a un siècle, on aurait pu imaginer une femme, donc élue, les femmes ne votaient pas il y a un siècle, une femme noire, ok, élue, et qui serait sifflée. Voilà, c'est des formes de progrès. Il faut se réjouir quand on a ces progrès-là. Et je disais ça, c'est des progrès, qu'on le veuille ou non. Et je disais ça, et à la fin de l'entretien ce matin, il y a une dame noire, antillaise, qui ressemblait tout à fait à la première, si bien que j'ai cru que c'était la même, et qui a dit, moi je suis responsable de la section culturelle de... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'elle était responsable comment elle s'appelle ? Nicole, voilà. Et c'était extraordinaire, elle est arrivée en disant, mais moi aussi, je suis dans l'organisation Utopia, etc. C'était absolument génial. Enfin bon, c'est une petite histoire. Mais je crois qu'il faut aussi savoir se réjouir quand on gagne. Hein, il y a des victoires. C'est pas parce qu'on célèbre nos victoires ou qu'on reconnaît que les luttes de nos ancêtres ont abouti et nous valent certains avantages et certaines libertés que ça va nous démobiliser pour nos luttes présentes et à venir. certains voudraient que noircir le tableau pour nous motiver. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, je ne crois pas que ce soit juste. Et c'est pour ça qu'on a aimé, enfin qu'on a voulu monter cette image énorme du mont Canigou avec Pierre Carl, c'est de dire on arrive à certaines libérations, à certaines émancipations, jamais définitivement acquises, mais quand on les atteint et on en a atteint un certain nombre, et ben on découvre qu'il y a d'autres espaces de liberté auxquels nous n'avions pas pensé, que nous n'avions pas soupçonné et qui nous attendent. On va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie. Et donc, le film va être diffusé régulièrement ici et on compte sur vous pour le faire savoir autour de vous. Merci beaucoup.
Le mercredi 26 en 35 mm.